Avenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, moment privilégié d'échange et de découverte de vos acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Ismaïl Bournad, patient expert en addictologie. Le terme exact, c'est quoi déjà?
Patient expert en addictologie certifié.
Certifié, voilà, c'est important, voilà. Ça, on en parlera après, ça a du sens. Hein. Et Frédéric Riboulet de la MNT, donc c'est le responsable Aquitaine Développement de la Mutuelle Nationale des Territoriaux. Bonjour messieurs, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci.
Bonjour à tout le monde, très bien et bon appétit.
C'est ça, c'est l'heure. Bon, on va passer une heure ensemble, on va parler d'addictologie. Voilà, on a parlé pas mal hors antenne. On ne peut pas ne pas être concerné parce que forcément autour de nous ou nous, on y a quelque chose qui nous concerne. Et c'est bien d'en parler parce que c'est un problème de société qui n'est pas négligeable. On va passer une heure ensemble à développer ce sujet. Mais on part tout de suite écouter le Flash Info national et international et on retrouve nos invités tout de suite après. Alors, on va parler d'addiction. Je vais commencer à poser une question à Frédéric. La MNT, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on ne connaît pas forcément cet organisme.
Alors, la MNT, c'est une mutuelle d'assurance qui couvre les risques prévoyance et santé. Depuis maintenant 60 ans à peu près, puisqu'elle a été créée en 1964. Alors, à l'origine, par des agents territoriaux, pour des agents territoriaux. Et puis, par la suite, nous nous sommes ouverts à tout public sur la mutuelle santé. Et donc, la MNT est la sixième mutuelle d'assurance en France et fait partie donc, du groupe Vive. Donc, c'est une union de mutuelles groupées. Remplit en fait sa mission grâce à la performance de son modèle mutualiste, hein, puisqu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire, et de toutes ces valeurs qui en découlent, la solidarité, la proximité, la qualité du service rendu. Et le groupe Vive est le premier assureur national en France, puisqu'il couvre environ 10 millions de personnes en France, et donc fait partie de ce groupe Vive, donc la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, également la MGEN, Harmonie Mutuelle pour les plus grands et les plus connus, mais bien d'autres. Et donc notre mission en fait est de protéger en fait tous nos adhérents. Au-delà des couvertures donc santé et prévoyance, on s'attache également à développer la prévention pour ses adhérents, et notamment donc sur les addictologies.
C'est ce qui vous amène ici avec votre camarade Ismaïl, qui va nous parler de lui. Et il y a pas mal à dire. Il y a pas mal à dire. Ça va être un bon client, je vous préviens.
Ouais, un ancien bon client des bars surtout.
Oui.
Plus maintenant, mais bon. Enfin, moi, je suis d'accord. Bon, je suis né à Dax et jeune déjà entre potes, on s'alcoolisait. Après, mon petit chemin de vie, c'est que je suis parti à l'armée, donc je me suis alcoolisé un peu plus. J'étais barman de métier, donc je travaillais été hiver. J'étais saisonnier, donc toujours au contact du produit.
Oui.
Et je suis tombé dans l'alcoolisme donc pendant de longues années, parce qu'il y a un mot toujours qu'on dit, c'est « j'arrête quand je veux ». Et ça, je peux vous dire qu'une fois que vous êtes pris dans les addictions, c'est très très compliqué. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est la plus grande difficulté dans l'alcoolisme, c'est le déni.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà. Quand on sort du déni, eh bien, on se dit effectivement il y avait un problème, donc là on part vers les soins, même si c'est pas facile. Et puis il faut savoir, parce que les gens, quand on leur parle de soins, de suite ils voient clinique, ils voient sevrage. Non, moi je l'ai fait en ambulatoire.
Oui.
C'est pas facile, mais on s'en sort, ce qui nous empêche de nous désocialiser, parce que la difficulté, c'est que quand on se retrouve tout seul à la maison, eh bien, on a tendance à s'alcooliser puisqu'on est en dépression.
Oui, c'est vrai, c'est quelque chose de compliqué. Alors, vous avez un statut de patient expert certifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Parce que c'est important.
Voilà, donc après des années, j'allais moi à la clinique au Maïlis, pour ceux qui connaissent, à Naros. J'étais dans une association qui s'appelait Vie Libre. peu comme les alcooliques anonymes, tout ça. Mais je faisais ça avec une association d'anciens buveurs. Mais après, comme il a fallu que je fasse des sensibilisations pour la fonction publique territoriale ou pour les entreprises du privé, on est obligé d'être certifié.
Oui.
Donc automatiquement, il a fallu que je passe un diplôme, une certification. Et le seul organisme qui fait ça, c'est France Patients Experts. Alors France Patients Experts, il faut savoir que c'est une association de certification. Ce n'est pas d'anciens buveurs. Et donc nous, on est reliés avec le ministère de la Justice, le ministère de la Santé. Ce qui me permet de travailler avec les addictologues, où je peux aussi travailler à la demande de monsieur le procureur sur des injections de soins. Donc c'est pour ça que je l'ai passé sur 2 années, et c'est une certification qui vous habilite à faire des sensibilisations.
D'accord. Alors au niveau temporel, on en est où? Vous avez à quel moment vous avez entamé et achevé votre sevrage, et depuis quand vous êtes patient expert certifié?
Alors moi, je suis patient expert certifié, ça fait 3 ans. Et moi, j'ai eu le déclic, ben, ça fait 12 ans que je suis abstinent, parce qu'il faut savoir que dans l'alcool, les plus grandes difficultés sont les rechutes, bien entendu. Mais moi, bon, pour l'instant, ça va, je touche du bois, ça fait 12 ans. Et moi, mon déclic, ça a été mon papa, tout simplement, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai eu quand même des histoires avec l'alcool. Il faut savoir qu'avec l'alcool, on a toujours des histoires, alors que ça soit financier, que ça soit au boulot, que ça soit les bagarres, que ça soit les voitures cassées. J'ai eu de la chance, j'ai jamais touché personne. Moi, après quelques années, ça a été mon papa qui m'a appelé, puisque mes parents habitaient Toulouse, et bien, mon père était en larmes au téléphone, et ça m'a touché particulièrement, et là j'ai dit stop, il faut que j'arrête. Et de là, je suis parti vers les soins. Donc moi, en ambulatoire, je l'ai fait, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas me désocialiser. Je continue à travailler parce que financièrement, je ne vous cache pas que j'étais à la rue. Et donc, j'ai mis 3 années pour vraiment être vraiment bien. Et puis là, ça fait 12 ans que ça dure. Donc, c'est pour ça que j'ai monté ce projet de sensibiliser dans la fonction publique en partenariat avec la MMT et Frédéric. Et aussi, je travaille beaucoup aussi pour les entreprises du privé.
Très bien. Alors bon, j'ai vu que vous faites aussi des ateliers, des conférences. Voilà, vous intervenez vraiment sur le terrain pour. On a parlé tout à l'heure de Frédéric a parlé de prévention. Donc c'est voilà, tous les gens que j'ai reçus ici. Dès qu'on parle du médical, la prévention semble tellement évidente. C'est tellement, il vaut mieux quand même prévenir que guérir. Alors vraiment, parce que déjà ça coûte moins cher à la société, parce que il faut prendre en charge les pathologies, mais c'est quand même mieux de communiquer, voilà, de communiquer sur la chose.
Ouais, c'est-à-dire que l'alcool, c'est tabou. Et les gens ont honte de le dire. Comme on dit tout à l'heure, vous allez dire peut-être que je suis cru, mais c'est la vérité. On dit plus facilement j'ai un cancer que je suis alcoolique. Mais malheureusement, c'est une grande souffrance, quoi. Les gens qui sont malades à l'alcool, moi je l'ai connu, j'étais au fond du seau. Et c'est de la dépression très profonde. Et je peux vous dire que c'est un mal-être total. D'où il faut aller chercher les gens, il faut essayer d'en parler. Je sais que c'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, il y a des familles, il y a des enfants, et ça bousille tout l'entourage, quoi. Ça bousille la personne physiquement, mais ça bousille aussi tout l'entourage, et les liens sociaux, et ça, c'est le plus compliqué, quoi.
Oui, c'est vrai que quand on voit certains faits divers, l'alcool est toujours le fait aggravant. C'est-à-dire, il pourrait se passer quelque chose ou ne rien arriver, mais comme la personne est alcoolisée, ben, voilà, ça bascule du côté obscur, si je puis dire, et l'alcool étant vraiment le facteur déclenchant, la petite goutte qui fait déborder le vase dans le mauvais sens.
Ben, tout simplement, moi je me réfère, je suis d'accord, donc j'ai travaillé pour les fêtes, alors des deux côtés, vous direz du côté du comptoir, et de l'autre côté j'étais client. Je peux vous dire que vous savez très bien que l'alcool, quand vous êtes désinhibé, vous n'êtes plus la même personne. Souvent, ça part vraiment en vrille, quoi, et puis c'est plus les mêmes personnes. Et puis vous savez, vous avez des gens qui s'alcoolisent, ils sont timides, et quand ils sont vraiment alcoolisés, vous les reconnaissez plus. Ou ils pleurent, ou ils sautent dans tous les sens.
Oui, c'est vrai. Et puis oui, ça engendre effectivement des bagarres, des accidents, aussi des incivilités et des abus sexuels aussi, parce que bon, il y a beaucoup, on a eu beaucoup de news. Bon, je veux pas stigmatiser le rugby, bien entendu, mais on a eu pas mal de news sur Dax avec des problèmes de rugbyman alcoolisés et avec des femmes, évidemment. Donc voilà, c'est un problème qui est pas inexistant du tout.
Dernièrement, j'ai fait une intervention pour la mairie de Saint-Paul, c'était pour le printemps citoyen, c'était sport et addiction. Et je vous recommande, il y a un super magazine de l'équipe 21, vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est La Maison Brûle. C'est les gens qui, au niveau du rugby ou de différents sports, qui se retrouvent au contact de produits, d'alcool, tout ça. Et c'est catastrophique, quoi.
Alors, je vais me tourner vers Frédéric, parce que, voilà, les addictions, dont on parle de l'alcool spécifiquement plutôt aujourd'hui. Et ça a quand même une grosse incidence sur le milieu professionnel. C'est-à-dire, ça ne fait pas bon ménage.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que les addictions au travail, c'est une vraie problématique aujourd'hui, parce que on est intervenu, nous, dans des dizaines et des dizaines de collectivités, notamment, où on a sensibilisé et informé les agents qui y travaillent. Donc on a maintenant vu à peu près plus de... à peu près 4000 personnes, on arrive effectivement à ce seuil-là, ce qui commence à être quand même assez conséquent.
Oui.
Et c'est vrai que faut dire aussi ce qui est, c'est que le code du travail interdit déjà de venir sur son lieu de travail sous l'emprise de drogue ou d'alcool, oui, ou de médicaments également, oui, de substituts ou autres. Et c'est vrai que c'est une difficulté. En fait, sur tous les ateliers qu'on a fait, on a rencontré systématiquement en fait des personnes qui étaient touchées soit directement ou indirectement par cette problématique et les addictologies. Et c'est vrai que au niveau du service après rendu et du travail effectué, ça cause des gros soucis à la fois pour la personne en elle-même, parce qu'elle va se mettre en danger forcément, et puis également pour les collègues de travail, parce que ça a aussi des conséquences pour les autres.
Et oui, évidemment, parce que si une personne arrive complètement alcoolisée, non seulement elle ne sera pas efficace au travail, c'est moins qu'on puisse dire, donc il faudra que quelqu'un le fasse, et puis il peut y avoir des accidents du travail, en fait. Bon, dans un bureau, il y en a peut-être moins, des accidents de travail, mais il n'y a pas que ça. Hein. Dans la vie, il y a des gens qui font des chantiers, qui sont sur la route, il y a le danger du trajet. Hein. Évidemment, conduire alcoolisé, c'est non seulement interdit, mais c'est surtout très dangereux pour soi et les autres, et effectivement, être... alcoolisé au travail, c'est interdit. Mais bon, s'il suffisait d'interdire les choses pour régler les problèmes, on serait déjà au courant, n'est-ce pas ?
Ça se saurait, oui, effectivement.
Oui, voilà. On parlait... Alors, l'alcool, c'est quand même une cause de décès d'une grande quantité de personnes par an en France. Ismaïl a une petite comparaison qui va peut-être vous ouvrir un peu les oreilles.
Mais donc, les chiffres sont de 50 000 pour les addictions à l'alcool, je parle. 50 000 personnes par an. Alors, 50 000, c'est 50 000 personnes mortes de la maladie de l'alcool et pas des accidents. Parce que malheureusement, dans les accidents, souvent, c'est ceux qui n'ont rien demandé qui prennent. Quoi. C'est souvent comme ça, mais c'est malheureux. Donc, 50 000 morts. Et donc, moi, la comparaison que je fais, c'est que vous riez de la carte d'Ax et Mont-de-Marsan chaque année.
Oui.
Donc je pense que c'est parlant, quoi, et c'est les chiffres qui sont réels.
Oui, ça calme d'entrée, oui.
Ouais, donc c'est une sacrée maladie, quoi. Puis c'est reconnu depuis 1978 comme maladie d'alcoolisme.
Voilà, oui, c'est ça. Alors on en a parlé aussi hors antenne, mais c'est une partie très importante, effectivement. Le problème, c'est la partie psychologique. Mis à part les symptômes, c'est le fait qu'on n'en parle pas. Voilà, effectivement, comme vous disiez, on aura peut-être plus tendance à dire, j'ai un cancer ou j'ai une maladie grave, j'en sais rien, que de dire à ses potes ou à sa famille, je suis alcoolique. Et ça, c'est quand même c'est un des fonds du problème, c'est qu'on en a honte et c'est pourtant on a besoin d'aide. Et donc, sans les autres, c'est difficile de s'en sortir.
Ouais, mais tout à fait, on ne peut pas s'en sortir, surtout l'alcoolisme, c'est l'addiction la plus compliquée à soigner, bon, les gens ne le savent pas, mais parce qu'il n'y a pas de substitut pour l'alcool, c'est surtout de la grande dépression, et comme je disais toujours, j'ai une petite pensée tout le temps à ces femmes aussi qui s'alcoolisent, quoi. Donc il y a beaucoup de femmes qui s'alcoolisent, alors les derniers chiffres de chez France Patients Experts sont en France entre 500 000 femmes et 1,5 million de femmes qui s'alcoolisent, d'où un fil on sort bientôt là, sur l'alcoolisme féminin, je ne sais plus le titre,
d'accord.
Je suis désolé. Mais les femmes, c'est encore plus compliqué parce que le jugement.
Oui.
Alors déjà, vous savez très bien que quand quelqu'un s'alcoolise, on le juge.
Oui,
alors
oui.
Une femme, c'est encore pire. Et c'est encore pire, c'est pour ça que moi, je veux réagir très vite quand il y a des soucis d'alcoolisme qu'une femme m'appelle. Parce que derrière, il y a des enfants. Et puis, vous savez, si vous enlevez à une mère ses enfants, je pense que ça finit très 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 mal, quoi.
Ah oui,
et c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant. Et les femmes s'alcoolisent comment? Vous n'avez pas de femmes dans les bars. Les femmes, elles sont dans les bars entre copines.
Oui.
Vendredi, samedi, elles s'alcoolisent chez elles.
Oui, oui.
Et quand on s'alcoolise chez soi, on s'alcoolise massivement. les doses sont plus les mêmes. Et puis chez soi, il n'y a pas d'horaire de fermeture, quoi.
Ouais.
Et donc là, on part carrément au fond de la dépression. Et puis là, c'est hyper compliqué, quoi.
Mmh. Alors après, je ne sais pas si Frédéric a des chiffres avec la mutuelle, mais je pense aux femmes plus spécifiquement qui en moyenne, on a toujours dit qu'elles avaient une moyenne de survie d'âge, hein, de décès supérieur à l'homme. Mais je crois qu'avec le temps, ça finit par se... L'écart entre les hommes et les femmes a fini par s'amenuiser parce que justement il y a des comportements, stupides que des hommes ont, que des femmes ont fini par adopter, comme l'alcool et la cigarette par exemple. Il me semble que maintenant, j'ai pas les derniers chiffres en tête, que la différence entre les hommes et les femmes s'est amenuisée en fait.
Alors, j'ai pas forcément de chiffres à ce sujet, différence homme-femme, mais en tout cas, c'est vrai qu'on constate une augmentation de l'alcoolisme au féminin. Mmh. Souvent, d'ailleurs, c'est de l'alcoolisme qui se fait à domicile, ouais, un peu caché du regard des autres. Mmh. Et c'est là où ça peut être difficile de le détecter, justement.
Et oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas de gens pour aider. Alors, comment est-ce que... C'est une question toute bête, hein, Ismaël. Comment est-ce qu'on se rend compte, si on peut se rendre compte, qu'on est alcoolique ? Voilà, ça c'est une question très bête.
Mais... Oui, non, mais je vous expliquer. Moi, de moi, parce qu'en fait, je le vois aussi à travers les autres, mais les autres que je vais voir, c'est des gens que j'aide, donc ils sont déjà malades. Moi, je voulais dire comment je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti par le manque, tout simplement. Alors, le manque, c'est quoi ? Bien, c'est que quand vous commencez à vous lever le matin, que vous commencez à trembler. Donc là, il n'y a pas photo, là, il y a un gros problème, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, moi, dans mon cas, moi, eh bien, le matin, il fallait déjà que je prenne le produit, c'est-à-dire l'alcool, parce que tant que je ne m'alcoolisais pas, eh bien, je tremblais, je n'étais pas bien, énervé, tendu, tout ce que vous voulez. Donc, il faut consommer. Mais par contre, après, eh bien, c'est ce qu'on appelle dans l'alcoolisme, il y a un mot qu'on appelle le craving, donc c'est un mot anglais. Mm-hmm. Ce que ça veut dire, envie irrépressible de consommer.
Oui.
Donc je peux vous dire que là, si vous n'avez pas le produit, vous pétez les plombs, vous transpirez, vous pétez les plombs, d'où cette violence. D'où, c'est pour ça que c'est vraiment le problème de la maladie, c'est le craving, quoi.
Mm-hmm. Alors, on se demande aussi des fois comment est-ce que les gens, ils arrivent à tenir leur journée, en commençant à boire dès le matin, suivant leur activité et tout. Comment est-ce qu'on arrive à trouver les ressources, la force et la lucidité pour arriver à accomplir sa tâche quotidienne ?
Ah oui, non. Alors, je vous coupe. Non, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un problème, vous êtes vraiment alcoolique, c'est pas parce que vous arrivez au boulot que vous n'allez plus consommer de la journée. Hein. Mm-hmm. Non, c'est-à-dire que les gens, ils amènent leur consommation au boulot et ils la planquent.
Ouais.
Tout simplement. Dernièrement, j'avais fait une collectivité avec Fred, et c'était une dame qui était malade de l'alcoolisme. Bon, elle en a profité qu'on soit venu pour sensibiliser, pour m'appeler, vu que je suis au secret, donc ça me permet quand même de pouvoir discuter derrière.
Oui, bien sûr.
Et elle, par contre, eh bien, elle travaillait dans une mairie, dans un bureau, et c'était deux avec une collègue. Eh bien, ça va peut-être vous surprendre parce que quand vous arrivez au boulot, c'est le craving, vous en avez n'importe quand dans la journée. Donc, craving, envie irrépressible de consommer. Donc, elle mettait ses consommations dans les toilettes.
Ah oui.
Oui, mais après, tout alcoolique, vous savez ce qu'on dit, c'est pas méchant, hein, mais puisque j'en faisais partie, les alcooliques sont les plus grands menteurs. Hein. Ils vont toujours vous balader, le déni. Hein. Donc ça veut dire qu'ils vous planqueront des bouteilles partout, c'est pas vrai, j'ai arrêté de boire ici et là. Mais non, c'est très 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 compliqué. Ouais.
Alors voilà, moi j'ai une question à poser à Ismaël, c'est vraiment des cas concrets. Voilà. Alors si on connaît quelqu'un qui est alcoolique, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Vers qui il faut le diriger ? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?
Alors déjà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le juger. Ça, c'est la première des choses. C'est le jugement et ça, c'est le pire de tout.
Oui.
Eh bien, il faut essayer de lui en parler, mais il faut qu'il veuille se soigner. Déjà, sortir du déni. Et si c'est le cas, des fois, il faut le laisser. Il faut lui reparler de temps en temps. Fais attention à ta consommation, tu vois. Et puis, s'il est pour se soigner... Il faut qu'il aille dans un centre de soins en addictologie. Donc ici, dans le coin, on est sur Souston. Donc ici, il y a une antenne sur Tyros. Après, il y a les gens qui habitent plus sur Bayonne. Autrement, plus sur Dax. À Dax, il y a l'hôpital, il y a le soin en addictologie. Autrement, il y a Caminante, La Source, une association aussi des addictions qui sont sur Dax et Mont-de-Marsan. Donc j'ai fait ma certification. Donc ce qu'il faut savoir toujours, parce que souvent quand on est au fond du seau et financièrement, il faut savoir que les soins sont gratuits et anonymes.
Oui.
Donc ça permet aux gens de pouvoir y aller.
Alors, comment ça se passe les soins? C'est de quel ordre? Il y a un accompagnement psychologique, ouais. Médicamenteux aussi, c'est, ouais, comment ouais, c'est tout encadré à fait.
Sauf qu'il n'y a pas de médicament pour l'alcool, donc tout ouais. Alcoolique est dépressif. Alors attention, hein, je n'ai pas dit qu'on est dépressif, on va être alcoolique. Hein. Ça peut y amener, mais ça ne veut rien dire. Mmh. Par contre, quand vous êtes malade de l'alcool, vous êtes en dépression totale. Ouais.
Oui, oui.
Donc souvent, on file un petit médicament pour la dépression. Mmh. Et après, l'alcoolisme, c'est tellement compliqué que chaque cas est différent. Donc après, il y a des psychologues, ça dépend de... Et puis ça dépend du vécu de la personne, ce qu'elle a vécu pour mmh. en arriver là.
Oui. Alors, est-ce que bon, il y a des activités qui doivent aider, par exemple, tout bête, mais par exemple le sport, les activités oui. physiques, etc. Je suppose ouais. que ça doit aider à la rémission.
C'est ça, ouais. Moi, ça m'a aidé personnellement. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà changé beaucoup de collègues, puisque j'avais beaucoup de copains de comptoir, mais mm-hmm. bon, c'était comme ça. Et après, moi, j'ai fait beaucoup de marches. Ça m'a permis de penser mm-hmm. à autre chose.
Oui.
La piscine, et puis je me suis retrouvé, des fois je me disais, mais c'est vrai, t'es en train de marcher, alors que normalement, à cette heure-ci, tu devais être à l'apéro avant.
Ben oui.
Donc le sport, s'occuper. Mmh. C'est pour ça que je dis que moi, je suis pas médecin, hein, attention. Mmh. Moi, je dis que quand on peut le bien, hein, c'est de le faire en ambulatoire, c'est-à-dire de continuer à travailler déjà pour pas se désocialiser, pas se retrouver tout seul à la maison, mmh. et de deux, et surtout pour l'aspect financier, quoi.
Mmh. Et donc voilà, si on n'a pas les antennes, si jamais on est alcoolique, on a décidé d'arrêter, c'est pas une bonne idée de le faire tout seul, c'est risqué. Pas.
C'est très risqué, ouais, c'est très risqué, surtout si ça fait des années qu'on s'alcoolise comme ça, là on risque de faire du délirium mince,
oui.
c'est-à-dire que vous allez commencer à voir les éléphants, les araignées et tout le reste, quoi.
Oui.
La
oui.
jungle.
Mmh. Oui, c'est vrai que ça peut être une complication
oui.
grave du sevrage
oui,
alcoolique.
Bien sûr, ça se saurait si on pouvait arriver à arrêter tout seul.
Voilà, c'est ça.
Et vous avez tellement de gens qui se sont retrouvés dans des situations compliquées avec la justice que même ils y arrivaient, même avec les soins, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, donc vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr, oui. Et alors, voilà, la première chose à faire, aller vers quelqu'un qui est alcoolique, c'est pas évident, en fait. Hein, on n'a pas envie de le mettre mal à l'aise, voilà. Parce que c'est la première chose qui va se passer, c'est ça, en fait. Il va se sentir, comme vous disiez, jugé.
Voilà.
Alors qu'on a une bonne démarche, c'est pas évident de trouver les bons mots.
Non, mais il faut juste lui laisser savoir que s'il a besoin, vous êtes présent et de lui montrer qu'on peut l'aider, on peut s'en sortir, c'est sûr et certain. Nous, avec Fred, on travaille aussi beaucoup dans les collectivités ou au moins dans les entreprises. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas, notre cheval de bataille, c'est de ne pas laisser les gens alcoolisés sur le travail et surtout que les collègues voient et ne disent rien. Et ça, par contre, il ne faut pas laisser faire. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a un problème et je peux vous dire que là, tout le monde se retrouve en difficulté. Parce que derrière, il y a une enquête et là, ils veulent savoir qui a fait quoi et pourquoi on a laissé les gens alcoolisés sur le lieu de travail.
Oui, c'est ça, une sorte d'omerta un petit peu.
Moi j'ai assisté, puisque par mon diplôme, à quelques au tribunal, quelques séances, je peux vous dire que ce n'est pas top. Hein.
Oui, alors comme on en parlait aussi aux antennes, on se bat contre un ennemi qui est quand même, une drogue en vente libre, quoi. Hein. C'est difficile de, une fois qu'on est, alors voilà, quand on est alcoolique, c'est à vie. Hein, ça, voilà, c'est une chose qu'on a un peu intégrée à force de regarder des séries télé, surtout américaines, parce que les Français en parlent moins, il me semble. Et donc en fait, on n'est jamais tiré d'affaire. Il faut toujours être vigilant.
C'est ça. Moi, ça fait 12 ans que je suis abstinent. Et comme on dit, c'est une maladie, c'est comme le cancer, on est toujours en rémission.
Mmh.
Bon, moi, je n'ai pas spécialement envie, puisqu'avec les années, ça m'a passé. Et puis, le fait d'avoir un projet, ça m'a occupé. Donc, non, c'est assez compliqué, quoi.
Et après, c'est bien, parce que, je veux dire... Le terme était un peu grand, mais vous servez un petit peu d'exemple, dans le sens où la maladie, enfin le fait de combattre la maladie, hein, vous en a sorti, et maintenant, le fait de combattre la maladie, c'est une chose qui vous fait tenir le coup et qui vous donne un sens à votre vie aussi, cette aide à donner aux autres gens qui sont dans le même cas
que
vous avez
tout été. À fait. C'est-à-dire que quand on sort comme ça, il faut savoir, pas mal de gens me disent, mais comment t'as réussi à monter un projet comme ça, il faut savoir que tout simplement, quand vous sortez d'une addiction aussi compliquée que l'alcool, je peux vous dire que rien ne vous fait peur après. Donc, à partir de là, vous pouvez enclencher. Après, d'être un exemple, oui et non, mais d'en être sorti surtout. Surtout parce que je peux vous dire que, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'étais dans une assoce d'anciens buveurs, là par contre, je rentrais dans les familles. Mmh. Et je peux vous dire que c'est assez compliqué quand vous retrouvez l'entourage où c'est que madame, elle a été violentée. Mmh. Les gosses, ils n'ont plus rien à manger. Ils ne peuvent plus aller à l'anniversaire du petit copain parce que papa, il a tout mis dans l'alcool. Mmh. S'il n'a pas été viré du boulot, je peux vous dire que c'est catastrophique. Et malheureusement, je peux vous certifier qu'il y a beaucoup de gens en difficulté.
Ouais. Après, c'est vrai, ce que vous décrivez, c'est, ça concerne, on va dire, un petit peu toutes les drogues, mais il se trouve que l'alcool est tellement disponible, est tellement intégré à notre culture, hein. Hein, même quel papa qui n'a pas donné un jour un verre d'alcool à son gamin, je sais pas quel, tiens goûte,
tout se fait,
tu vois, ça s'arrose. C'est l'expression ça s'arrose, c'est un truc qu'on a tous dit je sais pas combien de fois en fait.
Avec un peu d'humour. J'ai eu jour au foot, donc la troisième mi-temps je la connais.
Oui.
Alors avec un peu d'humour, moi je dis les émotions positives et négatives, ça va pas, on va boire un coup, ça va, on va boire un coup.
Oui.
Donc en fait dans le sport c'était on gagne, on boit un coup, on perd, on boit un coup. On fait match nul, on boit un coup. En fait on boit toujours des coups.
Qu'est-ce qu'il y a comme actualité? Vous faites des ateliers, etc. Il y a des choses qui arrivent des fois que vous faites. Et dans quel cadre?
Alors nous, on intervient dans le cadre notamment des collectivités territoriales, où on a déjà mené beaucoup d'ateliers de sensibilisation et d'information. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà sensibilisé 4000 agents, et notamment sur des villes proches comme Souston, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Angresse, Cap-Breton, Haussegor, etc. etc. Donc ce sont des actions concrètes qui vont avoir aussi un lien direct avec la lutte contre les addictologies. Et juste pour terminer, une actualité, puisque la MNT notamment a mis en place depuis janvier 2025 un nouveau service pour tous ses adhérents, pour accompagner en fait les personnes qui le souhaitent, à la fois avec des conseils digitaux et humains, pour atteindre des objectifs de bien-être. Donc soit sur l'activité physique, l'alimentation, mais ça peut être également la santé mentale notamment, en lien avec les addictologies, et des infirmiers, des psychologues cliniciens, des sophrologues qui vont accompagner les personnes qui en ont besoin. Et il faut savoir que tous les adhérents à la MNT ont également possibilité gratuitement d'avoir un contact avec un psychologue via une ligne téléphonique dédiée.
Très bien. Et voilà, on a discuté aussi un peu avec Ismaïl en antenne. Bon, bah, la prévention, ça commence chez les jeunes, en fait.
Ah oui, oui.
Plus faudrait... c'est fait jeune, et mieux c'est.
Ouais, il faudrait, bon, je pense à partir de 16 ans, commencer à sensibiliser tous ces jeunes. Et surtout au niveau, bon, alcool, mais surtout aussi au niveau des produits comme la cocaïne.
Ouais,
malheureusement, cannabis. On en est infecté, cannabis, on est infecté sur cette côte. Dernièrement, on a fait avec Fred, on a fait une super, deux super, 4, 5, 6 super sensibilisations. Ça a été une première avec, sous la houlette de Stéphanie Barnex. On a fait tous les chefs de poste et maîtres nageurs de la côte landaise. Donc ça a été un vif sujet, succès, pardon. Donc pour peu, on en a parlé, que ça serait bien de sensibiliser tous ces jeunes, quoi.
Très bien. Eh ben, notre émission va arriver à sa fin. Bon, moi, j'espère que votre message sera arrivé aux oreilles de nos auditeurs et que... Et voilà, parce qu'on a bien parlé que le problème, c'est quand même
d'en parler,
psychologique et un petit peu de honte. J'espère qu'il y a des gens qui nous ont entendus, qui sont peut-être tout seuls là, qui se disent « Bon, ben voilà, il y a quand même un message d'espoir dans ce qu'on a dit. »
Bien sûr,
voilà, on a parlé bien sûr des choses négatives, on fait un peu peur aux gens.
Non, mais
c'est vrai que il y a le message d'espoir qui doit dépasser tout ça.
Si j'ai un message à faire passer, je vous promets que ça vaut vraiment le coup d'aller vers les soins. Moi, j'ai vu ce que c'était qu'être au fond du seau. Je peux vous dire, on s'en sort. Et c'est la plus belle vie maintenant, déjà de s'en être sorti pour soi-même et pour sa famille, et de pouvoir aider les gens. Et je vous promets que c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Donc je vous souhaite surtout une bonne santé et prenez soin de vous.
Et faites-vous entourer.
Voilà,
et surtout, il faut se faire aider.
Voilà, il faut se faire aider, il n'y a pas 50 solutions.
Voilà.
Et puis c'est pas, il n'y a rien, il ne faut pas avoir honte, on se fait aider, c'est normal, c'est une maladie, hein. Comme je disais, c'est reconnu maladie depuis 1978, donc on est malade et bien on se soigne.
Voilà, ça sera
merci à tous.
Le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce message, c'est important qu'on l'entende, je crois. Merci beaucoup, merci messieurs.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.